Europe 1, en balade avec Frédéric Taddeï.
Et pour une heure et demie, nous sommes donc avec Frédéric Taddeï. Aujourd'hui, non pas au pas de course, mais au pas de danse, avec la danseuse et chorégraphe française Marie-Claude Pietragala.
Europe 1, 11h, 12h30, en balade avec Marie-Claude Pietragala. Frédéric Taddeï.
Bonjour Marie-Claude Pietragala. Je vais vous appeler Pietra, oui. Je sais que vous n'aimez pas qu'on vous appelle Marie-Claude.
C'est vrai.
On est au 59 rue Marcelin Berthelot, oui. À Alfortville. Pourquoi est-ce que vous vous êtes installée à Alfortville?
Parce qu'on a trouvé avec Julien, on a trouvé ce lieu
bien,
qui était
notre mari et,
voilà,
votre,
et le chorégraphe
et, associé,
et associé, oui, la compagnie, le Théâtre du Corps. Parce que c'est très difficile de trouver un lieu où il y a de l'espace, où il y a de la hauteur de plafond, et que quand j'ai vu cet endroit, qui n'était pas du tout comme ça, hein, qu'on a aménagé,
c'était, quoi, l'origine, vous savez, non ?
C'était une entreprise d'énergie corse, très étonnamment. Oui. Ouais, on a eu de la chance, voilà, c'était mes compatriotes. Ouais. Mais du coup, voilà, on a un petit peu agencé, il y avait beaucoup de bureaux en mezzanine, on a fait tomber la mezzanine, et puis on a mis ce plancher flottant.
Sur
et
puis votre mari, Julien Derouault, est en train de on dit quoi,
s'échauffer voilà.
Devant le miroir.
Voilà, exactement.
En jogging, avec ses cheveux blonds, oui. de son rôle de Lorenzo Cio.
C'est ça, on l'a créé au festival de Grignan il y a un an et demi. Une version très particulière, parce que d'abord c'était en plein air, au pied du château. Là, évidemment, on a fait une adaptation pour le théâtre. Et puis c'est un spectacle un peu inédit dans sa conception, puisque... On a travaillé sur la résonance entre la pièce de théâtre d'Alfred de Musset et la danse. Donc on a des artistes, une troupe qui est en même temps...
Scène,
on est 11 sur scène,
ouais.
Et on est en même temps les comédiens et les danseurs.
D'ailleurs, tous ceux qui l'ont vu, vous l'avez joué à Toulon, à Calais, à Cannes, tous se demandent comment vous faites pour danser...
Et jouer
déclamer,
voilà,
et quand est-ce que vous respirez?
C'est ça, on a inventé un peu avec Julien une technique justement, parce qu'on avait déjà travaillé sur des auteurs comme Ionesco ou la poésie d'Aragon au théâtre de Shakespeare. Et c'est vrai que c'est un travail de souffle important, à quel moment il faut calmer la respiration, à quel moment il faut, de toute façon il faut être audible aussi par rapport au texte, parce qu'en plus c'est un texte magnifique et c'est vrai qu'on a envie que chaque mot sonne. Et trouver une musicalité entre le texte et la danse.
Et ne jamais être essoufflé.
C'est ça qui est difficile. Et Julien, il a d'ailleurs, bon, s'il fait le rôle principal, Lorenzo. Et c'est vrai qu'il a des moments, il a des textes énormes. Et il arrive, je trouve, magistralement bien.
Tout le monde est épaté.
Oui, oui.
Et on se dit que c'est là, vous êtes en train d'inventer véritablement un langage nouveau.
Oui, alors peut-être une façon de... Oui, ça fait des années hein, qu'on essaye de creuser un sillon et une identité forte, mais c'est vrai que là, ce lien avec le théâtre, avec la voix, comme si on avait donné voix aux danseurs et corps aux comédiens, c'est un travail qu'on creuse, hein, qu'on continue à évoluer, mais qui est passionnant. Très honnêtement, on n'a pas inventé le fait de mettre de la danse et du théâtre sur une scène. Mais par contre, le fait de pouvoir... jouer et, comme vous dites, déclamer ce texte et en même temps, le corps commence à être, à résonner au verbe. C'est comme si le corps était l'inconscient des personnages. C'est comme si, une fois qu'il n'y avait plus de mots, on avait une autre lecture de ces personnages qui sont très complexes dans Lorenzo Cio, qui sont vraiment, moi je trouve que c'est génial, c'est travailler sur les mécanismes de l'être humain, des jeux de pouvoir, puisque c'est
surtout Lorenzo Cio, en plus,
voilà,
il fait semblant, il joue un rôle.
Il joue un rôle, parce qu'au départ, c'est un jeune poète, rêveur, qui va aller dans les bas-fonds et qui est perverti par son cousin, le duc Alexandre, qui a été mis comme par le pape et qui règne en tyran. Et il a ce dessein de le tuer. C'est très, en même temps, contemporain, cette pièce, parce qu'à la fin, évidemment, il arrive à tuer son cousin. Et il y a un autre Médicis qui arrive, Côme de Médicis prend la place. Donc on peut peut-être faire aussi un parallèle avec des choses un peu plus actuelles.
Donc dans ce grand lieu dans lequel nous sommes, bien chauffé d'ailleurs, on entend peut-être au loin le
chauffage industriel pour les grands volumes.
À la fois c'est le siège de votre compagnie, c'est un studio de répétition, mais c'est aussi l'école de danse depuis le mois de septembre.
Oui, c'est ça. On partage le lieu, le matin et le soir c'est l'école et l'après-midi c'est la compagnie.
Et c'est vous qui donnez les cours,
Marie-Claude ? Alors moi je donne les cours le lundi. Je donne des cours de barre au sol et un atelier chorégraphique.
Vous avez toujours adoré la barre au sol, non ?
Oui, parce que ça donne un fil rouge, c'est-à-dire qu'on a une façon de... Le corps est éveillé, il y a une conscience du mouvement, C'est ça qui est formidable. Et c'est ce que j'aime dans la danse. Moi. C'est pas la danse pour qu'elle soit acrobatique, pour que ce soit voilà, sauter plus haut, tourner plus vite. Enfin,
est-ce
ça n'a pas vraiment d'intérêt.
Est-ce que vous êtes dur en tant que prof, comme l'ont été les profs avec vous ?
Non, moins.
Ça ne se fait plus d'être aussi dur qu'on l'était.
Oui, en même temps, bon, à l'époque, bon, voilà, je ne sais pas comment on peut dire ça, mais on ne se posait même pas la question. On savait que c'était dur. Donc, on se disait, voilà, c'est comme un boxeur ou un footballeur.
Pour devenir danseuse étoile.
Voilà, c'est des athlètes de haut niveau, donc il faut remettre son ouvrage en permanence, puis se poser plein de questions. Mais là, on ne peut plus enseigner comme ça. Et alors,
les parents retiraient leurs enfants.
Oui, peut-être. Et puis, moi, en plus, avec Julien, on a voulu volontairement l'ouvrir à des professionnels, des semi-professionnels et des amateurs. Tout le monde est mélangé. Ouais. Donc, du coup. Voilà, c'est une façon d'enseigner peut-être différente, parce que moi, je pars du principe que le langage du corps, il est ouvert à tout le monde et qu'on peut prendre des cours et avoir le plaisir de danser, pas obligatoirement pour en faire son métier.
Europe 1.
On se retrouve dans un instant avec Marie-Claude Pietragala au Théâtre du Corps à Alfortville.
On retrouve Frédéric Taddeï en balade avec Marie-Claude Pietragala en région parisienne. On les retrouve dans le Val-de-Marne.
Nous sommes avec Marie-Claude Pietragala au Théâtre du Corps à Alfortville. C'est là que siège sa compagnie, studio de répétition, mais aussi école de danse. On est dans une petite pièce blanche, enfin plus petite que celle d'à côté.
Ça, c'est les vestiaires.
Les vestiaires.
Avec les instruments pour le travail aussi.
J'allais dire les instruments de torture. Oui,
c'est
le
travail de Pilates, là, qui est relevé, mais normalement, c'est au sol. Et puis, voilà, c'est un lieu basique où les gens viennent se déshabiller et pour se préparer. Et puis là, alors là, on passe carrément dans l'arrière-boutique parce que là, c'est les fly case.
Les vêtements,
les costumes. Il y en a beaucoup encore de l'autre côté. Et puis en haut. Ça, c'est Lorenzaccio, la production qui tourne.
Là,
c'est
Sad.
Voilà, Sad, Vivant, Je t'ai rencontré par hasard.
C'est votre spectacle que vous jouez encore de temps en temps avec Julien.
Oui. On est encore en tournée.
Marco Polo, il y a ça aussi.
Il y a Marco Polo qui est de l'autre côté.
Ça a été un triomphe international, Marco Polo. Ça a été énorme.
Vous
l'avez joué partout ?
On l'a joué dans beaucoup, beaucoup de pays. Et puis,
Marco Polo, ça s'exporte mieux que Sad, j'imagine.
Oui. Nous, on a adoré travailler sur Sad. Mais c'est vrai que, quelque part, les programmateurs ou les directeurs de théâtre étaient un peu frileux. Mais pas le public, c'était très étonnant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on le jouait, le public venait, discutait après les spectacles. Enfin, c'était vraiment une pièce qui remuait et qui interpellait. Mais c'est vrai que pour le programmer, ça n'a pas été simple.
Mais ce sont toujours les institutions qui sont en retard sur le public, non ?
Oui, parce qu'ils ont l'impression que c'est leur public et que donc, peut-être, ils détiennent une certaine vérité sur les gens qui côtoient leur théâtre. Alors que bon, le public, il est multiple, je me semble. Et puis avec des envies, des goûts différents et éclectiques. Donc, c'est peut-être un peu français d'étiqueter les choses.
Oh, je crois pas. Je crois que c'est partout dans le monde.
Je sais pas.
Les Français sont plutôt plus tolérants que les autres.
Plus tolérants, mais plus compartimentés aussi. Moi, je peux parler que dans les arts. C'est vrai que souvent, ce qui a pu être compliqué pour nous dans notre parcours, c'est que comme on n'avait pas d'étiquette, qu'on a travaillé avec des artistes qui étaient aussi bien classiques contemporains, des hip-hoppers, des comédiens, des musiciens, c'est que tout d'un coup, on met des curseurs qui ne sont pas dans des cases. Et justement, les gens sont un peu... C'est le symbole, c'est vraiment Lorenzaccio, où on est... des comédiens qui dansent.
C'est vous aussi. Vous êtes à la fois très moderne et très classique. Vous devez en dérouter pas mal, et cela depuis le début, non ? Je crois que même à votre entrée à l'opéra, déjà quand vous aviez 10 ans, il vous avait trouvé atypique.
C'est vrai qu'il m'avait trouvé atypique. Et puis je pense qu'il y a eu un moment où, enfant, je détestais ça parce que j'avais qu'une envie, c'est de rentrer dans le moule et d'être comme les autres. Et puis après, je me suis dit, ça peut être aussi une force et une richesse supplémentaire.
Il y a de plus en plus d'effets, notamment d'effets numériques, dans la danse aujourd'hui et dans vos spectacles en particulier. C'est ici que vous les travaillez, vous les répétez ?
Oui, alors c'est vrai qu'on les travaille souvent en amont du spectacle, en amont de la création, enfin à proprement parler, du travail dans le studio avec les artistes. Donc on fait un synopsis comme un film. Et puis après, on décide sur telle scène, on veut tel effet. Voilà. Là, en l'occurrence, sur Lorenza Cho, ce qui n'était pas le cas sur MMR, enfin, Monsieur et Madame Rêve, j'appelle ça MMR, mais c'est plus facile à dire. Et sur Lorenza Cho, là, c'est l'idée, c'est que comme Alfred de Musset écrit cette pièce de théâtre, pas pour être jouée, mais
oui,
il invente.
Il n'avait jamais joué, d'ailleurs.
Voilà, il invente le spectacle en fauteuil, on raconte l'histoire. Du coup, il est comme au cinéma, il est cut, il passe d'une scène extérieure à une scène intérieure, il passe chez les Chibos, en passant après tout de suite chez les Strozzi, au bord de l'Arno, on revient dans une ruelle. Du coup, je sais que les metteurs en scène, ça n'a pas été simple pour eux d'envisager un décor unique. Donc du coup, nous, on s'est dit, eh ben voilà, on va identifier chaque famille et on va identifier chaque lieu grâce à l'image 3D, à l'image numérique.
Ça, c'est vraiment ce qui caractérise la danse du 21e siècle, ce recours aux images 3D, aux effets.
Oui, je pense que bon, les artistes, c'est normal, ils évoluent avec le temps puis avec la technologie. Après, moi, j'aime bien, c'est pas une recette pour moi, il faut que ce soit vraiment en lien avec ce que j'ai envie de créer. Je trouve que c'est intéressant quand l'image ne prend pas le pas sur les artistes sur scène. S'ils sont bouffés par l'image, là, tout d'un coup, ça devient des éléments de décor vivants. Et bon, moi, ma conception de la danse, c'est pas ça. J'ai du mal à considérer un artiste comme un décor. Voilà.
Qu'est-ce qu'il répète comme mouvement, Julien?
Là, il est en train de faire sa barre. Parce qu'en fin de compte, même si on a développé cette technique très contemporaine, on aime bien revenir aux fondamentaux et faire une barre classique tous les jours. C'est un travail au quotidien. On remet son ouvrage à chaque fois.
Et on peut lui parler pendant qu'il fait ses exercices ou c'est pas possible?
Je pense que oui.
Europe 1.
On va essayer.
On va passer de l'autre côté et puis
on va essayer. On se retrouve avec Julien Deroux dans un instant.
Elle fait partie de ceux qui ont vulgarisé la danse classique et contemporaine en France et probablement l'une des danseuses les plus connues justement de notre pays et à l'international. Mmh. Aujourd'hui, Frédéric Taddeï est en balade avec Marie-Claude Pietragala.
Nous sommes avec Marie-Claude Pietragala, on vient de traverser le vestiaire, le bureau, le coin cafétéria.
Ouais.
On revient dans la grande salle de danse. Bonjour Julien.
Bonjour.
Je ne vous avais pas reconnu avec vos cheveux blonds peroxydés. Ah. C'est pour le rôle de Lorenza Cho.
Exactement. C'est le look qu'a mon personnage dans le spectacle.
Donc si je comprends bien, dans Lorenza Cho, ce n'est pas en costume de Renaissance.
Non, c'est un peu revisité. Il y a des éléments qui sont issus de cette période, mais non, on a voulu en faire quelque chose d'un peu différent.
À quoi ça sert le parquet flottant sur lequel on marche là, et qui grince un peu?
Ça sert à amortir
les sauts,
oui, parce les réceptions de sauts, mais en règle générale, d'amortir les chocs. Il y a des balles de tennis qui sont coupées en deux et donc qui donnent l'élasticité.
Ah, c'est ça.
Voilà. C'est ça qui donne l'élasticité.
Il y en a partout là.
Partout.
Ça fait combien de mètres carrés ici?
Je sais pas, il y a 180 mètres carrés là.
180, 200 mètres carrés.
Ouais, 200 mètres carrés, ça doit faire pas mal de balles de tennis.
Ça fait pas mal de balles de tennis, oui.
C'est drôle, j'aurais jamais imaginé ça. Comment vous êtes partagé le travail cette fois-ci tous les deux sur Lorenza Cho, puisque vous êtes chorégraphes tous les deux, vous êtes mari et femme, vous êtes les parents d'une petite fille, mais comment ça se passe quand on crée un spectacle?
La façon dont on crée d'habitude n'a pas fondamentalement changé sur ce projet-là. On savait qu'il allait y avoir beaucoup d'éléments et le texte de Musset étant très riche, on avait besoin d'avoir ce double regard, c'est-à-dire quand il y en a un qui est un peu sur l'ouvrage, il y en a un, l'autre peut du coup prendre un peu de recul pour voir ce que ça donne, une sorte d'alternance comme ça dans le travail. Il se trouve qu'en plus, alors on ne l'a pas fait exprès, mais la marquise qu'interprète Pietra, la marquise de Chibo, n'intervient quasiment jamais avec Lorenzo. C'est une histoire à part. C'est très George Sand et Alfred de Musset, donc ça nous a en plus amusé de rentrer là-dedans.
Oui, c'est la première fois qu'on ne danse pas ensemble du tout. On n'a aucune interaction, juste le final. Mais sinon, on a d'autres partenaires. C'est bien. Ça
justement, la synchronisation qui est la base du travail de danseur, et Dieu sait, c'est important de son ou sa partenaire quand on est danseur. Cette synchronisation, j'imagine qu'elle vous accompagne partout dans la vie de tous les jours. Ensuite, est-ce que vous êtes constamment synchronisé?
Non, non, parce que en fait, ce qu'on s'aperçoit aussi, ce qui fait que notre métier, enfin notre art est toujours aussi bluffant, c'est qu'on s'aperçoit que nous-mêmes, alors qu'on travaille ça depuis qu'on est môme, on s'aperçoit qu'on peut vite se déconnecter aussi, en fait, et être pris par le quotidien, être pris par d'autres choses, d'autres énergies. Et en fait, c'est à chaque fois qu'on reprend notre cours, Pietra disait tout à l'heure qu'on faisait notre barre, qu'on se réchauffait, c'est comme une sorte de mantra, en fait. C'est que tout d'un coup, on reconnecte avec le corps et que du coup, à travers cet outil-là, on est capable de créer. Mais on s'aperçoit nous-mêmes que des fois, on se désynchronise si facilement, en fait.
C'est vrai.
Mais peut-être on est quand même synchronisés tous les deux sur le travail au moment où on a justement ces idées. C'est vraiment un regard, un double sur la création, parce que justement, c'est un truc de ping-pong. À chaque fois qu'il a une idée, moi, je rebondis, et vice-versa. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de pré-carré, dans le sens où on fait tous les deux dans la création, on s'occupe de tout.
L'organisation.
Ça a l'air comme ça, poétique, le rêve, l'imaginaire, la danse. Mais derrière tout ça, il y a une société, il y a une entreprise culturelle, enfin, où il faut s'occuper de ça. Il ne faut pas être complètement déconnecté de ça. Et
là, par exemple, quand vous allez partir en tournée après Playel, vous allez aller partout. C'est quand même pas vous deux qui vous occupez de réserver les chambres d'hôtel.
Non. Heureusement, c'est la logistique. Il y a quelqu'un qui s'en occupe. Mais c'est vrai que les lignes directrices de la compagnie, on est obligé de les insuffler et de continuer à avoir un cap quand même. On n'est pas.
On n'est pas complètement là pour le coup. De ça, on n'est jamais déconnecté, malheureusement. C'est-à-dire, par rapport à tout à l'heure, c'est des choses qu'on aimerait bien de temps en temps.
Oui,
oublier.
Oui, on aimerait bien.
Et même des fois, la logistique, ou parfois, si un danseur a loupé son train, oui, on est au courant. Dans la minute, en fait. C'est nous les premiers à être au courant de savoir qu'il va nous en manquer un ou qu'il va avoir 3 heures de retard à la répète.
Votre fille, elle danse ?
Elle danse, oui. Elle danse pour son plaisir. Ah. Elle danse pour son plaisir. Elle aime beaucoup. Les arts martiaux, elle fait du kung-fu. Quand j'étais petite, oui, c'est marrant, je me suis retrouvée un peu en elle tout d'un coup. Elle s'est passionnée pour ça. Et puis on l'a ouvert aussi sur le. Bon, elle a fait la musique, elle a fait du théâtre, du chant. Voilà, ça l'a permis d'ouvrir un peu sur les arts. Quoi.
C'est Guylaine Témar qui était une grande danseuse et qui me disait le plus important quand on a trouvé son partenaire, c'est qu'on sait qu'il vous rattrapera toujours.
Oui, c'est vrai.
Vous êtes d'accord, c'est ça, c'est qu'en fait, on peut faire n'importe quoi, votre partenaire vous rattrape toujours.
Oui, parce qu'on se connaît.
Ça, c'est pour une femme, ça.
Oui, mais même, par
pour
rapport
à un homme, c'est pareil.
Bien sûr. Parce qu'après, on rentre un peu dans de la cuisine interne, mais c'est vrai que pour un partenaire, surtout sur des spectacles qui sont très longs et puis avec de la fatigue, il y a un moment où le dos est très content de savoir que la réception du poids du corps de son partenaire va être à ce moment-là et pile poil dans le bon bras au bon moment. Il suffit d'avoir un tout petit peu plus d'élan en avant et en arrière et du coup le dos immédiatement se dit ça va piquer physiquement, ça va être difficile. Donc le fait de savoir par cœur ce qu'elle va faire permet aussi de s'arranger, de lâcher l'énergie à ce moment-là et surtout de pouvoir être endurant sur des spectacles d'une heure et demie, parce que je crois que c'est aussi ce qui fait notre spécificité par rapport à d'autres chorégraphes, c'est que on fait quasiment jamais de pièces courtes, en fait, de 20 minutes. On fait toujours des spectacles. Lorenzaccio, c'est plus de 2 heures.
Et puis, en plus, je le disais, vous avez des tonnes de textes à apprendre, à dire, tout en dansant et en respirant.
Oui,
ce
alors,
qui paraît un prodige, ce que je disais, Pietra.
Mais en même temps, c'est ce qui est magnifique, parce que d'avoir la langue de Musset dans la bouche, on parlait tout à l'heure de mantra, ça aussi, c'en est un autre. C'est-à-dire le fait d'avoir cette poésie, cette littérature en bouche et d'essayer de laisser partir le corps, comme si le mouvement, comme si la danse devait dépendre, en fait, vitalement, de ce que dit le personnage. C'est des expériences qui sont non seulement en studio, qui sont géniales à rechercher, et qui, on le voit aujourd'hui en scène, sont très très agréables, sont sublimes, surtout quand il y a la qualité d'écoute du public, qui du coup non seulement écoute le texte, mais quasiment du coup écoute la danse, ce qui du coup devient génial, quoi.
Pietra ?
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, bien sûr. C'est des sensations qui sont très difficiles à expliquer, d'ailleurs, par les mots, la danse. On a du mal à expliquer nos émotions, nos sensations, corps qui s'envole.
Moi, je vous ai toujours vu comme un mélange de classique, de moderne, je le disais tout à l'heure, mais aussi d'improvisation.
Oui.
C'est Christina Pluhar et l'Arpeggiata, quand ils interprètent Purcell, ils ont revisité Music for a While, et je me dis que ce serait une musique pour vous, on va l'écouter. Thank you. C'était Christina Puard et l'Arpeggiata interprétant Purcell dans Music for a While. Nous sommes en balade aujourd'hui avec Marie-Claude Pietragala. On va quitter le théâtre du corps et son mari, qu'on va laisser s'entraîner. Et on va sortir dans Alfortville, hein, puisque c'est ici que nous sommes, dans le Grand Paris, à 3 km environ de la capitale.
Souriez, c'est l'été. Et vous êtes bien sur Europe 1.
En vue du décollage, veuillez régler votre poste sur Europe 1. Merci de votre attention.
Et jusqu'à 12h30, heure à laquelle vous retrouvez un journal complet de la rédaction d'Europe 1, nous retrouvons Frédéric Taddeï en compagnie dansante Marie-Claude Pietragala.
Nous sommes sur la place de la mairie à Alfortville avec Marie-Claude Pietragala. La place s'appelle d'ailleurs place François Mitterrand.
Oui. Vous avez remarqué.
Alfortville, c'est quoi, 45 000 habitants à peu près. C'est là où se trouve désormais, depuis 3 ans, votre compagnie de danse. C'est la ville où a grandi Marion Cotillard, c'est la ville où finit sa vie l'abbé Pierre. Il y a une grosse communauté arménienne ici.
Oui.
Vous les voyez, vous les rencontrez.
Bien sûr, il y a des compagnies de danse aussi avec lesquelles on est en contact, effectivement.
Je crois que la statue qui est sur la place de l'Europe, c'est la statue du saint patron de l'Arménie, c'est Saint Mesrop.
Oui, c'est vrai, là on est face à la mairie. D'ailleurs, c'est vrai que ça a été une ville très très accueillante pour la compagnie, qui sont maintenant depuis 2 ans partenaires, subventionneurs de la compagnie, qui nous aident, avec lequel on a un bon échange. Et voilà, on essaye d'insérer des actions aussi dans l'école avec les associations. Là, au début de l'année, j'ai donné un grand cours pour les Alfortvillais. Enfin, voilà, c'est ça. En tous les cas, il y a une très belle énergie ici et on s'y sent bien.
Depuis quelques temps, vous revivez votre enfance puisque vous la racontez dans une série de livres pour enfants. Ça s'appelle Étoile. C'est une série en 6 tomes. Il y en a déjà 3 qui sont parus chez Michel Lafon. Ça vous fait quoi de vous transformer en Marie Pietro?
Ça m'a fait un peu bizarre. Mais c'est vrai que c'était très étonnant de se replonger dans son enfance qui est bon, c'est loin, et en même temps c'est des sensations, l'entrée à l'Opéra de Paris.
Oui, ça commence, vous avez 9 ans, hein. Oui. C'est tous les détails.
C'est quand même des choses qui m'ont marqué, donc effectivement.
Et vous l'avez fait vraiment en vous replaçant dans l'époque, puisqu'elle regarde L'âge heureux, qui était le feuilleton que toutes les petites filles qui rêvaient de faire de la danse classique regardaient, et pas seulement les petites filles, puisque je regardais aussi ce feuilleton, j'adorais.
J'adorais, parce qu'il y avait des intrigues policières, il y avait des. Ouais. C'est ce qui m'avait plu, c'était ces gamines qui allaient sur les toits.
Les toits de l'opéra, d'ailleurs, il y a la même chose. Hein, vous êtes vraiment allé sur les toits,
vous
aussi?
Oui.
C'est drôle comme on rêve toujours d'aller sur le toit de l'Opéra de Paris quand on est petit rat.
Oui, parce que c'est magique, puis ça surplombe, on voit tout Paris. Enfin, on a l'impression qu'on domine le monde quand on est là-haut.
Est-ce que vous avez eu un parcours autant semé d'embûches que Marie Pietro dans Étoile? Ce qui lui en arrive, peut-être pas possible.
Oui, c'est vrai.
Les rivalités, la jalousie, la discipline de fer qu'on impose à ses petites filles.
Alors, la discipline et le travail, oui, ça c'est clair que voilà, je l'ai vécu en étant consciente et puis en l'acceptant. Hein. Mais après, j'ai effectivement, pour le côté un peu romanesque de la chose, j'ai un peu concentré ce qu'on appelle la petite qui est la nièce de la directrice,
c'était Claude Bessy.
C'est ça.
Elle avait une nièce aussi à ce moment-là.
Non, elle n'avait pas de nièce, mais voilà. Et c'est vrai que j'ai un peu concentré, voilà.
Vous étiez aussi exemplaire que votre héroïne. Parce qu'elle est très bien, elle. Hein. Elle est non seulement douce, timide, comme vous l'étiez, mais elle est, à chaque fois, elle réagit bien. Hein.
Oui, elle réagit bien, oui. Peut-être que je réagissais peut-être pas aussi bien qu'elle. Hein. Voilà. Non, c'est sûr. Mais c'est vrai que c'est un univers comme ça de l'enfance, dans un travail, au sein d'une institution, dans une rigueur, et en même temps, qui est propice aussi à l'imaginaire, parce que quand on est petit, on ne se rend absolument pas compte de ce que va devenir sa vie en tant que professionnel.
En même temps, on rentre dans cette maison, l'Opéra de Paris, qui doit être très, très impressionnant, l'Opéra Garnier.
C'est très impressionnant.
Il est fabuleux, et on va y rester quand même une bonne partie. Vous êtes entré, vous aviez 10 ans, vous avez sorti, vous en aviez 35.
Oui, je suis restée 25 ans dans cette institution, et encore, je suis partie plus tôt que les autres. ouais. puisque les autres partent maintenant
40
à
42 ans et demi.
Voilà, et demi. Oui, oui, c'est toute une vie et on travaille ensemble depuis qu'on est tout petit. Moi, j'avais quelques partenaires comme ça privilégiés, entre Kader Bellarbi, Nicolas Lerich, Patrick Dupont. On se suit et on vit, on grandit ensemble, on vieillit ensemble. Enfin, c'est... Ça peut paraître sclérosant hein, de temps en temps.
D'ailleurs, je me souviens qu'après avoir quitté l'opéra, vous aviez 35 ans, vous avez fait beaucoup de spectacles sur l'enfermement.
Oui, oui. Non, c'est vrai.
Camille Claudel.
C'est vrai. Oui, parce que moi, j'ai toujours dit que l'opéra de Paris, c'était un état dans un état, quoi. Ouais. Avec ses propres règles, avec ses propres codes, avec cette institution et puis cette hiérarchie qui est présente en permanence.
Pourquoi vous aviez fait peindre votre loge en rouge ?
Parce que j'adore le rouge. Alors les gens me disaient, oui, non, mais ça va t'exciter avant un spectacle.
Oui, on dit que le rouge, c'est excitant.
Non.
Ça vous calmait.
Plutôt, ça me calmait. Non, mais j'aime bien le rouge.
Peut-être que votre niveau d'excitation est très supérieur à la moyenne.
Au rouge, voilà, c'est ça.
On se retrouve dans un instant avec Marie-Claude Pietragala.
C'est un plaisir d'accompagner votre début de journée. Nous sommes toujours en balade avec Frédéric Taddeï.
Nous sommes devant la mairie d'Alfortville avec Marie-Claude Pietragala, devant le square public Paul-Gabriel Ménet. Il y a une église qui est là, on dirait un village. Hein. Pourtant, c'est une ville quand même de taille moyenne.
Bien sûr. Oui, mais c'est calme, si c'est reposant, effectivement.
C'est vrai qu'il n'y a pratiquement pas de bruit de travaux. Alors
non.
À Paris, il y en a beaucoup.
Oui.
Ben voilà la cloche en
voilà.
plus.
Ouais.
Oui, c'est un village. Il paraît que c'est votre père qui vous avait inscrit dans votre chambre une phrase de Napoléon pendant que vous étiez à l'opéra. Pour vous encourager, vous raconter ça aussi dans Étoile.
Oui.
Qu'est-ce qu'elle disait, cette phrase ?
Quand on veut, sûrement, constamment, on réussit toujours. Alors, au départ, c'est vrai que cette phrase, elle n'avait pas trop de résonance en moi, petite, parce que je me demandais pourquoi elle était là. Et puis, au fur et à mesure que le temps a passé, je me suis dit, effectivement, c'était plus... Pour moi, la réussite ne veut pas dire grand-chose. Donc, c'était plus le fait de s'accomplir, quoi, de trouver sa voie et puis de se donner les moyens de le faire à fond.
Vous avez travaillé avec de très, très grands danseurs, Patrick Dupont, vous le citiez, Rudolf Nureyev, pendant 6 ans.
Oui.
Vous allez sillonner le monde quasiment. Il est le directeur de l'opéra à l'époque.
Il est le directeur de l'opéra. Il arrive, il révolutionne toute cette institution. Il met vraiment des coups de pied un peu partout. C'est une légende vivante. Quoi.
Il était fascinant pour une jeune fille comme vous.
Ah oui, il était fascinant. Il faisait peur en même temps.
Il était capable de se mettre très en colère.
Il avait des colères terribles. Alors au début, quand on le connaissait pas, on était très angoissés parce que il était toujours en mitouflé dans des châles avec des bonnets sur la tête et des sabots aux pieds. Il avait ses chaussons de danse et il mettait ses sabots par-dessus. De temps en temps, quand on ne comprenait pas trop, il prenait ses sabots et les lançait. Alors, c'est vrai que c'était au début, on était tous pétrifiés. Puis au fur et à mesure, là, il a eu des crises. Des fois, il prenait sa thermos, il l'achetait comme ça. Et je me rappelle d'une fois où, 4 ans après son arrivée, on était très habitués à ça, des crises comme ça. Donc, un jour, il était en colère, il a jeté sa thermos comme ça, il y en avait partout. Il nous regarde, bouge pas. Et puis, à un moment, il s'en va, il va prendre le balai, et puis il rigole et il nettoie. Parce que c'est vrai qu'avant, on était tous pétrifiés, on allait vite nettoyer. Hein, et puis, à la fin, on était habitués aux crises.
Il fallait qu'il nettoie lui-même.
Voilà. Mais en dehors de ça, c'était quand même un visionnaire. Ça a été un.
Vous avez failli mourir avec lui, je crois, en Inde. Hein. Vous avez eu un accident avec le tocard.
Vous savez,
on me l'a raconté.
Oui, on a eu tous le coup de lapin. Alors, pas avec lui, parce que lui, il était en voiture à côté. Il avait une voiture avec un chauffeur privé. Bref, on a eu un camion qui est arrivé.
De plein fouet
qui est arrivé. Donc le car a freiné et on a eu le coup du lapin. Donc lui a été voir le Taj Mahal, mais pas nous. Nous, on est restés 7 heures sur la route. C'était incroyable parce qu'il y avait des paysans qui nous ont... ça c'est une image incroyable. Ils sont venus, ils ont fait du feu. Et puis il y avait un des danseurs qui avait des chocolats... Léonidas, je crois. Enfin, je ne sais plus quelle marque c'était. Donc, en présent, on les a remerciés. On leur a donné le chocolat. Ils ont mis à la bouche. Ils ont craché le chocolat. Ça ne leur a pas plu du tout.
puis il y a Caroline Carlson aussi, vous avez commencé avec elle à 16 ans, hein. Oui. Dès que vous devenez professionnelle.
Oui, c'est la première chorégraphe contemporaine, Caroline, avec moi.
Beaucoup travaillé avec elle par la
beaucoup
suite.
Travaillé avec elle, on a créé ce solo dans le bac.
Qu'est-ce qu'elle a de si particulier, Caroline Carlson, pour avoir fasciné à ce point les danseurs de la deuxième moitié du XXe siècle?
Elle est en même temps incroyablement mystique et en même temps, elle ose beaucoup de choses. Elle est
c'est indispensable dans la danse parce que vous n'avez pas dit que vous faites tous ces efforts uniquement pour bien danser. Il doit y avoir quelque chose au-dessus.
Oui, il y a quelque chose qui nous porte au-dessus, bien sûr. Ouais. Comme Béjart qui avait libéré
qui
en même temps.
À 18 ans, lui,
voilà, libéré la danse. Il avait rendu une danse libre et en même temps mystique, sacrée. Et Caroline aussi, c'est un peu de cet univers-là. Et en même temps assez poétique. Elle est. Voilà, c'est une femme qui marche beaucoup sur l'improvisation et qui est très très à l'écoute des artistes qu'elle a en face d'elle pour créer. Et c'est vrai que moi, à 16 ans, tout d'un coup, sortant de cette institution hyper classique, tout d'un coup, je me retrouvais face à quelqu'un avec qui je pouvais parler, avec qui je pouvais échanger, qui me laissait aussi de temps en temps improviser, être créatrice aussi. Donc ça, c'était.
Vous avez dit une fois que. Au fond, à l'Opéra de Paris, on vous forme à être danseuse de l'Opéra de Paris.
Bien sûr.
Pas être danseuse tout court.
Non.
Donc il faut en fait s'en affranchir ensuite.
Oui, c'est sûr que s'il faut s'émanciper de ses maîtres, mais en même temps, c'était important. Moi, il y a des phrases qui résonnent de Nourrieff, de Béjart, des phrases qui sont peut-être des phrases clés. Pour moi, la façon dont ils avaient de regarder et d'appréhender la danse, comment Nourrieff a réussi à dépoussiérer le répertoire de l'opéra et à mettre le corps de ballet presque comme la star de ses créations. Maurice, voilà, c'est aussi la façon qu'il avait de théâtraliser aussi la danse. Caroline, pour d'autres raisons. On n'a pas parlé de Matzek. Moi, qui m'a énormément apporté.
Vous avez fait Gisèle.
Oui, parce que j'ai réalisé.
Suédois.
Et j'ai compris le rôle de Gisèle, le rôle romantique, à travers le fait d'avoir interprété le rôle contemporain. J'ai tout de suite, parce que dans sa version, dans sa vision, il y avait une dimension humaine que je n'arrivais pas à trouver chez cette petite paysanne un peu mièvre.
On est devant la brasserie de l'Hôtel de Ville. On va prendre un verre,
oui, Petra. Avec plaisir.
Ouais, je sais que vous avez une passion pour Barbara. Ouais. Écoutez, moi j'aime beaucoup. Moi, je m'en balance.
Ah oui, moi aussi.
La chanson du film La fiancée du pirate. On l'écoute et on s'attable.
Moi, je me balance. Je m'offre à tous les vents. Sans réticence, moi je me balance, je m'offre à qui je prends, le cœur indifférent. Venez, venez vite, je veux tout, mais tout de suite, entrez dans ma danse. Moi je me balance, des graffes et des cols blancs de vos consciences. Moi je m'en balance. Mon lit est assez grand pour des milliers d'amants. Moi, je me balance au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance, chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite, c'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance. Parmi tous vos désirs, vos médisances, moi je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je m'en balance, je me balance. Au soleil de minuit, de mes nuits blanches. Moi, je me balance. Chacun sera servi, mais c'est moi qui choisis. C'est moi qui invite. C'est moi qui vous quitte. Sortez de ma danse. Moi, je me balance. Parmi tous vos désirs, vos médisances. Moi, je m'en balance. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Sans adieu ni merci, je vous laisserai ici. Car je m'en balance, je me balance, je m'en balance, je me balance.
C'était Moi je me balance, la chanson de Barbara, et pendant ce temps-là, Marie-Claude Pietragala fait des selfies avec des garçons attablés à la brasserie de l'Hôtel de Ville. Vous l'avez connue, Barbara, je crois.
Oui, oui, je l'ai connue. Ça a été une rencontre extraordinaire. C'était au Théâtre du Châtelet. On avait même un projet ensemble. Elle avait évoqué...
Ça ressemblait un peu.
Ouais, c'est ce que tout le monde me dit. Et c'est vrai que j'avais cette envie de travailler avec elle. Mais au-delà de ça, c'est une artiste, une femme que j'admire beaucoup. Et puis surtout, elle avait une définition d'elle-même que j'ai fait mienne. C'est-à-dire qu'elle disait qu'elle était une femme qui chante et moi je suis une femme qui danse.
Europe 1.
Eh bien, on va aller prendre un verre au chaud.
Oui.
À la brasserie de l'Hôtel de Ville.
Avec plaisir.
D'ici à quelques minutes, Lionel Gougelot viendra nous parler des principaux titres qui seront développés à 12h30. Ça, c'est le journal complet de la rédaction d'Europe 1. En attendant, nous sommes en balade avec François Taddeï, qui lui-même est accompagné de la danseuse Marie-Claude Pietragala.
Nous voilà attablés à l'intérieur de la brasserie de l'Hôtel de Ville. Il fait très chaud avec Marie-Claude Pietragala. On a l'impression qu'on est très loin de Paris ici.
Oui, c'est vrai. On a l'impression qu'on est coupé de cette vie trépidante parisienne. C'est bien aussi.
C'est bien pour travailler.
Oui, c'est propice à la création. Moi, je trouve que c'est bien. C'est bien d'être un peu isolé dans une bulle. Bon, c'est le cas déjà à la compagnie, dans le lieu. Mais oui, c'est calme. Moi, j'aime bien. J'aime bien le Val-de-Marne.
Vous disiez, il y a quelques instants, que vous étiez une femme qui danse, et c'est effectivement comme ça que tout le monde vous voit. Mais est-ce que vous dansez tout le temps quand vous faites la cuisine
D'abord, je ne fais pas la cuisine,
quand
Frédéric. Je suis nulle en cuisine, je vais l'avouer. Ah ouais, nulle. C'est un art, la cuisine, mais ce n'est pas le mien, en tous les cas. Non, je danse pas tout le temps, mais j'observe beaucoup les gens, les mouvements qu'ils font, les gens
vous
qui se croisent. Oui. Ouais, ouais. J'aime bien observer les gens, même les réflexions, les comportements les uns avec les autres. Ça me. Oui.
Est-ce qu'on peut tout danser? Est-ce qu'on peut danser? On peut danser l'amour, vous l'avez fait. On peut danser l'amitié, c'est déjà un peu plus difficile.
Oui, mais on peut
danser l'agitation. Est-ce qu'on peut danser la cuisine ou est-ce qu'on peut danser le ménage?
Oui, alors le ménage, oui, c'est une bonne idée. C'est très très bien parce que dans Je t'ai rencontré par hasard, on a une scène avec Julien, justement, ça traite du couple. Et on a une scène où, effectivement, le quotidien prend le relais dans ce couple et détériore un peu le couple. Et comme c'est un thème très cher à Ionesco, ça, et on a justement une scène justement où je suis en train de faire le ménage. Julien est en train de faire autre chose et ça se dérègle et on va de plus en plus vite, on fait des gestes qui n'ont plus rien à voir les uns avec les autres. Enfin, oui, ça peut arriver, ça. Ouais.
Vous avez beaucoup voyagé. Est-ce que les façons de danser différentes vous inspirent? Ça m'a toujours frappé que les Jamaïcains, par exemple, dansent sans bouger les pieds.
Il y a le fait de ne pas, pas se déplacer, de ne pas utiliser l'espace.
Ouais.
Mais il y a aussi les danses indiennes qui sont très, très axées sur justement le mouvement des mains, le mouvement des bras. Il y a le flamenco que moi j'adore parce que c'est vraiment la définition pour moi du danseur, c'est d'être ancré dans le sol pour pouvoir s'élever dans le ciel. Donc il y a beaucoup de formes. Il y a le buto aussi que j'aime beaucoup. Oui, il y a plein de techniques comme ça et d'esthétiques de danse qui sont intéressantes et qu'on peut d'ailleurs de temps en temps aller chercher pour certains thèmes.
Oui, parce que aujourd'hui, ce qui caractérise vraiment la musique du 21e siècle, c'est la fusion. Toutes les musiques sont en train de se mélanger. Est-ce que c'est pareil pour la danse? Est-ce qu'il y a aussi une world dance comme il y a une world music?
Oui, il y a différentes techniques qui... Bonjour, monsieur. Merci.
Merci.
Il y a différentes techniques de danse, effectivement. Quand on voit, par exemple, l'émergence qu'il y a pu y avoir sur le hip-hop, sur ces danses urbaines, qui au départ était un courant et par rapport à aussi une philosophie, des choses qui étaient très engagées. Puis tout d'un coup, ils ont souhaité aussi pouvoir intégrer l'espace scénique et puis de mélanger aussi des esthétiques hip-hop avec des choses beaucoup plus contemporaines. Donc oui, il y a cette envie et ce besoin de fusion. Et je trouve que c'est que comme ça que la danse peut évoluer, d'ailleurs. À partir du moment où on tire comme ça des esthétiques différentes, des techniques, des influences, des états d'esprit aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est là où... Sinon, on finit par un peu tourner en rond, quoi. On finit
de tourner en rond,
ça m'embêterait.
Ça vous embêterait, je n'en semble pas.
Mais je trouve que c'est... Oui, je pense que c'est intéressant. Puis la jeune génération, elle a envie de ça. La jeune génération, elle a envie d'apprendre, elle a envie de se mélanger, elle a envie d'esthétiques différentes.
Il paraît que la morphologie des danseurs et des danseuses a beaucoup, beaucoup changé au cours du siècle écoulé. Vous l'avez remarqué ?
Oui, c'est vrai que, quoique l'esthétique, on va dire, de la danse classique demande certains codes, donc des gens longilignes, fins, avec une musculature fine. Après, sur des choses plus contemporaines, ou même les danseurs de hip-hop ou de flamenco, voilà, il y a un peu tous les physiques. Et moi, je trouve ça intéressant qu'on puisse faire danser tous les corps. Là, dans Lorenzaccio, mon Philippe Strozzi, il a une corpulence, il est costaud, c'est un rock. À côté, la petite Louise, elle lui grimpe sur le dos, elle est toute petite, toute fluette. Et puis le cardinal, le duc Alexandre, il est très très élancé. Le cardinal, il est.
Ça, c'était impossible. Il y a 30 ans, non, parce qu'il y avait tout le monde avait le même physique.
On avait
quasiment
plus ou moins le même physique, ou alors on empêchait certains qui avaient du talent parce qu'on leur disait t'es trop grand ou t'es trop petit. Moi, à l'opéra, j'ai plein de copines qui ne sont pas restées parce que trop grandes, trop petites.
Vous-même, on disait que vous n'étiez pas assez classique, au sens de la danse classique.
Ah oui, moi, pendant des années, on m'a dit... Alors, au début, on a dit danseuse caractère. Après, on a dit danseuse contemporaine quand la danse contemporaine est arrivée, dans les années 80, heureusement, pour moi. Et puis, c'est vrai qu'après, on a eu quand même des directeurs de la danse qui étaient quand même entre Nourieff et Patrick Dupont, qui étaient quand même atypiques aussi. Donc, c'est vrai que...
Vous êtes devenu danseuse étoile.
Mais oui, parce que quand on dit aux gens « Oui, vous êtes trop atypique » et puis qu'on voit que les directeurs le sont aussi, on se dit « Peut-être que j'ai peut-être une place quand même. » Mais c'est vrai que ça a été quand même tout le temps un peu hors norme.
Ouais, laissez passer les informations. On se retrouve avec Marie-Claude Pietragala, toujours en balade, dans Alfortville.
Europe 1, en balade avec Marie-Claude Pietragala. Frédéric Taddeï.
Nous sommes aujourd'hui en balade avec Marie-Claude Pietragala, Alfortville, où se trouve le siège désormais de sa compagnie de danse, le Théâtre du Corps. Nous nous dirigeons vers la médiathèque du pôle culturel d'Alfortville. Pietra, puisqu'on vous appelle Pietra, vous êtes végétarienne depuis 30 ans maintenant.
Oui. Ouais, peut-être même un peu plus, mais bon.
Un peu plus.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez décidé à l'époque ?
Franchement, je l'ai dit d'ailleurs au président de la fondation, Brigitte Bardot, c'est elle. Parce que j'ai vu tous ces élevages en batterie, toutes ces choses terrifiantes qu'on fait aux animaux. Et moi, je pars du principe qu'on devient ce qu'on mange. Donc voilà, ça m'a un peu ouvert au niveau de la conscience. On parlait tout à l'heure de Nourieff. Nourieff me disait toujours, mais Pietra, pas possible, vous mangez, devoir manger viande parce que vous force. Et là, je disais, mais non, Rudolf.
Il parlait comme ça, Rudolf.
Oui, des fois, il parlait comme ça. Oui, ça, il jouait, il pouvait très très bien parler français. Mais des fois, quand il voulait faire celui qui ne comprenait pas, il disait, moi, pas comprendre le français. Voilà, donc des fois il fuyait un peu la discussion. Mais là, en l'occurrence, ici, il y avait des grandes théories qu'il fallait absolument manger de la viande rouge, que c'était très important,
Ça sinon, il n'y avait manqué, pas. Finalement.
Jamais, voilà.
Vous avez fumé longtemps.
J'ai fumé tardivement, et oui.
Et ça vous a pas empêché de danser ?
Non. Non, mais c'est ça qui est terrible. Ça n'empêche pas de danser. Voilà, c'est le problème. Bon, j'ai plein de copains qui fument et qui malheureusement.
Oui, il y a beaucoup de. Plus qu'on ne croit. Hein,
oui,
de danseurs et de danseuses qui fument.
Beaucoup plus qu'on ne croit. Mais c'est vrai quand même qu'on sent la différence. Quand on s'arrête, on sent la différence quand même. Rien que se réveiller le matin, on a l'impression que la capacité pulmonaire est plus importante.
Nous voilà devant la médiathèque du pôle culturel d'Alfortville. Un bâtiment tout en verre et en acier.
Ouais. Médiathèque et la salle de spectacle aussi, qui est juste à côté, qui est à côté, qui est dans le même bâtiment.
Oui, c'est le bâtiment là en béton gris. Oui, ouais, c'est beaucoup. Et vous y venez souvent ici ?
Alors, moi, j'y suis venue pour danser. J'étais même en résidence l'année dernière, où on a présenté justement en avant-première le Lorenzaccio. On est venu faire l'adaptation. Oui, on est venu faire l'adaptation en théâtre, puisque comme ça avait été créé en plein air, on est venu effectivement toute la compagnie refaire une recréation d'espace.
Ouais, il y a salle de spectacle, médiathèque, brasserie, cinéma. Ouais. Autrefois. On appelait ça, moi je me souviens quand j'étais petit, c'était à la mairie, il y avait la bibliothèque, la discothèque et la salle des fêtes.
C'est ça.
Maintenant voilà. On appelle ça le lieu de convivialité.
Oui. Mais c'est
l'espace c'est convivialité.
L'espace convivialité, oui, c'est ça, tout à fait.
Ben, on va rentrer.
Oui.
Donc nous voilà dans la médiathèque du pôle culturel d'Alfortville. Il fait chaud, il y a du parquet, il y a des bambous.
C'est un espace en même temps de réflexion et calme. Voilà, il y a des gens qui viennent lire le journal.
Oui, il y a tout, on trouve la presse, les CD, ouais. Les DVD, les livres. Vous sentez l'époque, ça vous traverse en tant que danseuse, en tant que chorégraphe. Vous avez l'impression que les chorégraphies que vous faites aujourd'hui ne sont pas les mêmes que celles que vous faisiez il y a 15 ou 20 ans.
Oui, c'est sûr. Parce que moi, j'ai eu cette chance d'être une artiste du 20e et du 21e siècle. Et c'est vrai qu'il y a des choses magnifiques qui se créent maintenant, mais il y a eu des choses formidables au 20e siècle. Et c'est vrai que, oui, obligatoirement, on est influencé par ce qu'on vit au quotidien. Oui. C'est évident. D'ailleurs, quand on avait fait avec Julien Conditions humaines, qui était sur l'univers ouvrier minier et qui était une sorte de commémoration pour la catastrophe de Courrières, c'est vrai que moi, je connaissais mal cet univers de la mine. Et en même temps, ça, j'ai vu toutes les résonances dans le bassin minier qu'il pouvait y avoir, justement. Parce que ces mineurs qui nous disaient on a été la fierté de la France et puis que maintenant on a l'impression d'avoir été complètement oubliés. Donc c'est des réflexions comme ça humaines, des obligatoirement qui nous font réfléchir et qui nous font prendre conscience qu'il y a une évolution, mais qu'elle n'est pas toujours ce qu'on aimerait qu'elle soit.
On se retrouve dans un instant avec Marie-Claude Pietragala.
On retrouve donc Frédéric Taddei en compagnie de la chorégraphe et danseuse Marie-Claude Pietragala.
Nous sommes avec Marie-Claude Pietragala à la médiathèque du pôle culturel d'Alfortville. On monte les escaliers vers l'espace adulte. C'est très lumineux, il y a des grandes baies vitrées. De la moquette rouge, ça doit vous plaire le rouge.
Oui, c'est trop joli.
Ça vous calme.
Oui, c'est ça.
Vous lisez beaucoup ?
J'essaye, c'est par période, parce qu'il y a des moments où malheureusement le planning est un peu compliqué. Mais j'essaye de lire. J'ai fait partie de jury, de prix littéraires qui m'obligent un peu à me tenir au courant de tous les livres qui sortent. Alors, pas tous les livres, mais.
Ici, il y a beaucoup de CD, beaucoup de DVD. C'est quoi les grands films sur la danse pour vous ?
Alors, les grands films sur la danse, il y a ce film incroyable avec Baryshnikov, Tournant de la vie.
Et Le Cygne Noir.
Oui, Black Swan, complètement fantastique. Une vision un peu étonnante qui part complètement dans un autre univers.
Et est-ce qu'il danse bien dans ce film pour vous ?
Je sais qu'elle a été doublée.
Ouais.
Donc voilà, bon, après ça a été un secret, ça a été bien gardé. Oui, après, bon, il y a des moments où on la voit, elle, effectivement, il y a dû avoir un gros travail sur le corps. Mais des films comme ça qui sont sur la danse, il y a le film de Pina qui est intéressant, même si pour moi on ne voit pas Pina et que peut-être on passe à côté de ce qu'elle est, de ce qu'elle était. on la raconte plus à travers ses artistes, à travers ses danseurs qu'on ne la voit.
Et quelqu'un comme Fred Astaire, par exemple, alors Fred c'est Astaire, quelqu'un qui danse bien pour vous.
Fred Astaire, c'est un des artistes qui m'a le plus inspiré. Fred Astaire, c'est extraordinaire. C'est, alors voilà, un homme qui danse, ouais, pareil, avec une technique, une élégance, une distinction, sachant tout faire, hein, à l'américaine, danser, chanter, jouer la comédie. Ah oui, c'est des grands maîtres. D'ailleurs, Gene Kelly disait de Fred Astaire que s'il ne devait rester qu'un danseur de cette catégorie-là, il resterait Fred Astaire, bien sûr. Ouais. C'est un grand, grand, grand artiste.
Et les Noirs ont une façon de danser dans le cinéma américain qui, moi, me semble toujours époustouflante. J'ai toujours l'impression qu'ils dansent beaucoup mieux que Fred Astaire.
Oui, je vois, il y a les deux frères, dont j'ai oublié le nom, qui font un numéro incroyable.
Oui, j'ai oublié leur nom aujourd'hui. Et aussi, des danseurs de claquettes.
Ils sont d'une virtuosité incroyable et d'une force. Et on sent que la musculature n'est pas la même. Et voilà. Après, Fred Astaire, ce qui fait sa singularité, je crois, c'est le fait de danser comme s'il respirait. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'effort, on ne voit pas la force, on voit, c'est juste de l'élégance et l'air de rien, il danse. Et il fait des choses techniquement incroyables. Donc, non, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui a créé un genre particulier.
Et Catherine Deneuve et Françoise d'Orléac dans Les Demoiselles de Rochefort, par exemple. Vous étiez petite à l'époque,
oui,
vous avez forcément vu ce film.
Oui, je me rappelle. Alors, c'est une autre danse, mais moi, j'ai un peu de mal avec les comédies musicales françaises. Parce que ce n'est pas notre culture, justement parce qu'on a sectorisé beaucoup les choses. On est ou danseur, ou comédien, ou chanteur. Et du coup...
On a fait des films chantés, les parties, oui, de Cherbourg.
Oui, bien sûr.
Mais ce n'est pas les acteurs qui chantent.
C'est ça. Et c'est vrai que comme on n'a pas cette formation, alors de plus en plus on l'a, parce que tous les anglo-saxons nous ont amené aussi leur technique. Donc on commence à s'y mettre un peu. Mais du coup, on n'a pas cette formation-là. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est moins fluide pour moi. Effectivement,
et
les anglo-saxons.
Vous allez dans une boîte de nuit, vous. D'abord, est-ce que vous dansez et comment trouvez-vous que les gens dansent?
C'est des fois étonnant. Alors, il y a plein de styles de danse. Il y a des gens qui dansent sur place, qui bougent juste la tête. Il y en a d'autres qui sont complètement excités. On voit d'ailleurs bien les personnalités des gens à travers leur danse. Et quant à moi, je danse comme tout le monde. Alors, peut-être.
Oui, vous n'êtes plus une danseuse à ce moment-là. Non. Enfin, vous ne sentez plus la danseuse classique ou moderne.
Oui, non. Là, c'est plus l'idée d'être dans une communion collective, d'être tous ensemble.
Est-ce qu'il y a des gens qui vous invitent à danser? Bon, on ne danse plus tellement les danses à deux.
Non, on ne danse plus tellement les danses à deux. Et puis, je vous avoue, je vais rarement maintenant en boîte. Plus jeune, j'y allais avec la compagnie, avec les danseurs, quand on a fait Marco Polo, que j'avais cette équipe de.
Ah, ça doit être terrible, là, quand vous arrivez tous sur les pistes de danse.
Ah, mais parce qu'ils y allaient, mais.
Du Macumba
presque,
en province.
Mais ils y allaient presque pour travailler. J'ai souvenir quand on était en Chine. Ils y allaient, ils avaient leur sac à dos avec leurs serviettes, leurs bouteilles d'eau, et ils y allaient vraiment pour faire des battles. Donc là, on poussait tout le monde, c'était. Et j'avais plus envie de les regarder, parce que c'est drôle. C'est drôle.
Et
quand
vous
même.
Faisiez des battles, vous,
non, vous. Non, non, non.
Je crois que le premier disque que vous avez acheté avec votre argent, vous vous en souvenez? On m'a dit que c'était Sorry Seems to Be, la chanson d'Elton John.
Ouais.
Vous l'avez beaucoup écouté?
Beaucoup. J'ai beaucoup écouté Elton John. J'adorais sa voix et j'adorais son univers et puis ces Tonight ou des musiques comme ça qui sont propices à la rêverie, quoi. Et puis au spleen aussi un peu.
Donc vous étiez à l'opéra, mais... vous écoutiez Sorry Seems to Be the Hardest World. Mm-hmm. Je me suis dit que vous en aviez marre de la version de Todd John. Je vous propose d'écouter celle de Shirley Bassey.
Ça, avec plaisir.
Ça vous change un peu.
Avec plaisir.
What do I have to do to make you love me? What do I have to do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And I awake to find that you're not there.
to make you want me? What do I have to do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad. Why can't we talk? Seems to me that sorry seems to be the hardest
C'était Sorry Seems to Be the Hardest Word, la chanson d'Elton John, qu'a si souvent écoutée Marie-Claude Pietragala quand elle était adolescente. Mais cette fois, c'était interprété par Shirley Bassey.
Toujours dans le Val-de-Marne, encore quelques minutes et en compagnie de la danseuse et chorégraphe Marie-Claude Pietragala.
Nous sommes toujours à la médiathèque du pôle culturel d'Alfortville avec Marie-Claude Pietragala. Est-ce que vous avez déjà eu des fous rires sur scène?
Oui, oui. J'ai eu des fous rires très handicapants, dont un, non, je me rappellerai toute ma vie, justement, je dansais avec Nourieff, on faisait Apollon. J'étais avec deux de mes camarades, on va dire. Et il y en a une avec moi qui a eu un fou rire et on n'arrivait même plus à se regarder. Et à la fin de la chorégraphie, où on rigolait, et sur un claquement de doigts, Nourieff devait poser sa tête donc, sur les mains des nymphes. Et là, on rigolait tellement qu'on secouait la tête de ce pauvre Rudolf.
Et lui, il riait. Alors, aussi, lui?
Ah non, il ne comprenait pas. Alors, je me suis dévouée pour aller m'excuser quand même. Et c'était ça, ce personnage, parce qu'il pouvait être très, très en colère et, voilà, et tout d'un coup, fulminé. Et on ne savait pas trop pourquoi. Et puis, pour des choses comme ça, il m'a dit oui, oui. Bon, ça n'avait pas l'air de le...
Donc il avait été bon, ça le gênait
oui,
pas.
Oui,
ça, je l'aurais mis dans l'embarras.
Oui, non, ça n'avait pas l'air de l'avoir gêné.
Et vous êtes tombée déjà?
Alors oui, je suis tombée une fois.
Donc c'est le traumatisme absolu pour une danseuse.
Ah ça m'a décontractée parce que c'était sur Don Quichotte. Ma première entrée, je devais courir, faire un grand jeté et entamer une variation. Et donc, tout l'acte partait de ça. Je cours, je glisse, je tombe sur les fesses. Et là, je me dis, bon, j'ai pas fait un pas de danse que déjà je suis tombée. Donc, je me suis relevée, j'ai rigolé, ça m'a détendue et j'ai enchaîné le ballet. Voilà, c'est les 2h30 de ballet comme ça. C'est passé comme ça parce que je me suis dit, c'est tellement énorme de tomber sans avoir fait un pas de danse que je me rappelle, c'était au Japon. Oui, oui, ça nous est arrivé plein de fois. Bon, en même temps, il n'y a pas mort d'homme, quoi. Il faut juste se dire, bon, c'est pas grave et ça va.
On est dans la bibliothèque, là, on passe dans les rayons. Il y a des livres partout autour de nous. J'imagine que quelque part, là, au rayon enfant, il y a Étoile, dont
peut-être.
Vous êtes l'auteur.
Bah oui,
qui parle chez Michel Lafon. Il y a déjà 3 tomes. Vous avez rencontré des petites filles qui lisent Étoile,
oui.
Qui sont comme vous étiez à l'époque.
Vous
regardiez l'âge heureux et vous rêviez de devenir danseuse étoile. Devenir danseuse étoile en vous lisant.
C'est étonnant, d'ailleurs, de voir. Elle pose des questions.
Pourquoi avez-vous choisi d'ailleurs de le situer à l'époque que vous avez connue, vous, dans les années 60? Vous auriez pu le moderniser, en faire quelque chose d'aujourd'hui?
Parce que
les histoires sont les mêmes.
Oui, les histoires sont les mêmes, sauf que effectivement, moi, j'ai connu, l'école de danse à l'Opéra de Paris, au Palais Garnier. Je n'ai pas connu l'école de danse à Nanterre, qui a déménagé depuis déjà bien longtemps. Et du coup, raconter quelque chose que je n'ai pas vraiment senti, ça me semblait bizarre.
C'est pour la même raison que Lorenzo Cio, vous l'avez situé aujourd'hui, parce que vous n'aviez pas vraiment connu Florence pendant la Renaissance.
Bien vu. Oui. Mais en même temps, c'est comme je vous disais au début, c'est tellement quelque chose de très moderne, cette pièce de Musset, qu'effectivement... Il n'y a pas vraiment d'époque. Cette histoire, elle pourrait se passer maintenant.
Ouais.
Et pour Étoile, oui, moi, je suis une amoureuse. Pourquoi j'ai fait de la danse? Parce que je voulais danser au Palais Garnier.
Ouais.
Donc, je me suis dit, raconter une histoire d'une école de danse qui ne se passerait pas au Palais Garnier, ça me semblait difficile et surtout peut-être moins propice à faire rêver la jeune génération qui arrive. Quoi, parce qu'en fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est danser à l'opéra.
On dit que tout s'est uniformisé aujourd'hui, vous qui présentez vos spectacles dans le monde entier. On le disait, Marco Polo, ça fait le tour du monde. Est-ce que le public est le même pour vous à Singapour, à Tokyo, en Afrique du Sud? Vous y êtes allé aussi danser avec Doref, notamment, en Europe, aux États-Unis.
Certains pays sont différents. Par exemple, je pense au Japon, qui sont complètement dingues de la danse, ou même la Russie. Après, il y a des pays qui sont moins accessibles, par exemple comme l'Inde. Moi, j'ai des souvenirs effectivement d'avoir dansé d'ailleurs un ballet de Maurice Béjart qui s'appelait Bhakti 3, qui était sur de la musique indienne. Là, c'était différent. Les Chinois sont différents aussi. Par exemple, la tournée qu'on a fait en 2008, on a été vraiment dans des provinces où ils n'avaient jamais vu de danse contemporaine. Et c'est très étonnant parce qu'ils ont une philosophie. Ils sortent de la salle, ils reviennent, ils changent de place, ils parlent, ils commentent. Sur certains pays, c'est différent.
Ça peut être décontenançant. Hein, parce qu'un musicien de jazz, il a l'habitude qu'on sorte boire un verre, qu'on revienne, qu'on allume une cigarette, mais pas un danseur.
Ah oui, la Chine, c'était quand même très, très étonnant parce que, ils partaient. Des fois, ils loupaient 10 minutes, ils revenaient. On les voyait, ils se levaient, ils changeaient de côté. Il y en a qui étaient au fond, qui passaient devant. Mais c'est vrai que c'est étonnant.
Merci Marie-Claude Pietragala de nous avoir emmenés en balade avec vous aujourd'hui. Je rappelle que Étoile, cette série de 6 livres parus chez Michel Lafon, dans laquelle vous racontez votre enfance et votre adolescence. Vous y êtes Marie Pietro. Et bien, il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Je vous souhaite le meilleur.
Merci à vous.
Merci Frédéric Taddeï. Allez, restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, le journal.